Les colloques du Collège de France.
Le nom de Jules Oppert est avant tout lié au site de Khorsabad et de Babylone en raison de sa participation de 1851 à 1854 à l'expédition scientifique en Mésopotamie dirigée par Fulgence Fresnel dont nous a parlé tout à l'heure Nicole Chevalier. Et pourtant, les tablettes de Ninive ont joué un grand rôle dans ces travaux de déchiffrement de l'assyrien, et c'est ce que je voudrais étudier maintenant. Je vous propose d'examiner tour à tour sa mission scientifique en Angleterre de 1855, qui vient déjà d'être évoquée par Kevin Cathcart, et l'usage qu'il fit des photos de Roger Fenton à partir de 1857. Ensuite, nous verrons l'exploitation des trésors du musée britannique de 1861 à 1872 et on terminera en voyant la part qu'il prit dans l'édition de ce qu'il appelait le poème du déluge de l'épopée de Gilgamesh, découvert par George Smith en 1872. Moins d'un an après son retour en France en juillet 1854, Oppert se rendit à Londres pour étudier les tablettes qui venaient d'être rapportées de Ninive. Sa mission, effectuée à partir de la mi-juin 1855 au musée britannique, se révéla essentielle pour la suite de ses travaux et il en rendit compte au ministre à son retour. Les tablettes découvertes à Ninive par Layard et ses successeurs furent transportées à Londres à partir de 1851, les dernières par Rawlinson lui-même en 1853. Et Oppert comprit très vite que les tablettes, que nous appelons lexicales, lui offriraient la clé du déchiffrement des cunéiformes assyriens. Le musée britannique ne renforme pas seulement des inscriptions monumentales. Monsieur Layard a trouvé beaucoup de documents formant des archives ninivites, écrits en très petits caractères sur des tablettes d'argile. Toutes les sciences connues des Chaldéens y sont représentées, mais j'ai cru devoir abandonner encore tous les documents très obscurs qui se rapportent à l'astrologie et à l'astronomie, aux droits particuliers, aux coutumes, à la mythologie, pour me souvenir que j'étais philologue avant tout et qu'il fallait d'abord chercher à comprendre et à utiliser les documents ayant trait à la grammaire assyrienne et qui se trouvent en si grande quantité dans la précieuse collection britannique. C'était en effet une judicieuse définition des priorités. Or, ces tablettes étaient assez faciles à repérer en raison de leur apparence, présentation en colonnes, avec des lignes délimitant des paragraphes, etc. Oppert indique par ailleurs avoir fait la copie d'une centaine de ces tablettes. À ma connaissance, il n'en a publié aucune, et jusqu'à présent, je n'ai pas réussi à savoir si elles étaient conservées quelque part. Si quelqu'un a des idées, je suis preneur. L'allusion par Oppert en 1858, dans le tome 2 de l'expédition scientifique en Mésopotamie à des photographies, pourrait paraître étonnante pour le milieu du XIXe siècle. Pourtant, les 300 premières tablettes de la collection Kuyunjik, donc Ninive, ont effectivement été photographiées peu après leur arrivée au British Museum par Roger Fenton à partir de 1854 et ceux d'entre vous qui voudraient en savoir plus sont les bienvenus à l'exposition qui a ouvert à l'Institut des Civilisations mardi dernier. Des albums furent transmis à un certain nombre de savants. Oppert en reçut plusieurs lettres inédites, dont j'ai eu connaissance grâce à John Taylor, adressées par Oppert à Samuel Birch, qui était le conservateur des antiquités assyriennes et égyptiennes du musée britannique, font allusion à cet envoi. Le 29 mai, Oppert indiquait avoir reçu « 3 sets of photographs ». Oppert en transmit un jeu à son employeur de l'époque, la Bibliothèque impériale. Il est conservé au département des manuscrits de la BNF. Un deuxième jeu lui fut remis à la bibliothèque de l'Institut où il se trouve encore. Et Oppert garda pour lui le troisième jeu. Celui-ci appartient à l'Institut catholique de Paris. Il a été légué par Louis de la Porte en 1936 et a été récemment numérisé. Vous pourrez le voir à l'exposition. On voit que, grâce à ces photos, Oppert put réaliser des joints à distance. En effet, dans certains cas, C'est une fois revenu à Paris qu'il se rendit compte que des fragments appartenaient à la même tablette. Dans d'autres cas, il avait fait les raccords sur place, et l'un des plus importants qu'il réalisa, entre les fragments K39 et K153, lui permit de reconstituer un colophon d'Assurbanipal, ce qui le conduisit à mieux analyser la nature de la collection des tablettes exhumées à Ninive. Joelinson avait mesuré dès 1853, l'importance, et pas seulement numérique, des tablettes trouvées à Kuyunjik par Layard, puis par Rassam. Mais c'est Oppert le premier qui comprit qu'à côté des documents d'archives, on avait affaire à une véritable bibliothèque formée à l'initiative du roi Assurbanipal, qu'il appelait alors Sardanapal V. C'est lui, en effet, qui déchiffra pour la première fois un colophon, en l'occurrence celui qui se trouvait sur cette tablette K39 plus K153, et il en donna une première traduction dans son rapport de 1856. En 1859, il lui consacra la fin du troisième et dernier livre de son ouvrage sous le titre « Signature de Sardanapal V au-dessous d'une tablette grammaticale ». Et il en procura une édition, selon sa méthode de l'époque, avec une reproduction en cunéiforme imprimée, une translittération en caractère latin, une traduction en langue latine, ce qui est plus étonnant pour nous aujourd'hui, une traduction en français, et également étonnant à nos yeux, une translittération en hébreu carré. Sa traduction était ainsi rédigée « Palais de Sardanapal, roi du monde, roi d'Assyrie, à qui le dieu Nebo et la déesse Tasmit ont donné des oreilles pour écouter et des yeux pour voir, ce qui est la base du gouvernement. Ils ont révélé au roi, mes prédécesseurs, les règles de cette écriture cunéiforme, dans la piété envers Nebo, le dieu qui joint les caractères un à un, contrairement à leur valeur phonétique, je les ai écrites, je les ai signées et je les ai rangées, puis je les ai placées au milieu de mon palais pour l'instruction de mes sujets. » Vous pouvez vous rendre compte qu'Oppert n'avait pas tout rendu correctement, mais il avait compris l'essentiel. L'accès aux tablettes de Ninive du British Museum se révéla crucial pour faire avancer le déchiffrement d'Oppert. Il fournit lui-même, dans son rapport de 1856, un résumé en 9 points de ses principaux acquis à Londres. On peut le mesurer également en dépouillant les deux publications les plus importantes qui suivirent son séjour à Londres, son volume d'études assyriennes paru en 1857 et le tome 2 de l'expédition scientifique en Mésopotamie, dont les deux premiers livres sont parus en 1858 et le troisième en 1859. Les tablettes de Kuyunjik explicitement utilisées par Oppert dans ces deux ouvrages ne sont pas très nombreuses, mais leurs informations ont été essentielles et je donnerai une liste complète dans la publication des actes de ce colloque. Ces tablettes fournirent à Oppert des clés de compréhension cruciales grâce à son identification de syllabaires ou de textes bilingues qui lui donnèrent la lecture de nombreux idéogrammes. Comme l'a indiqué Oppert, que je cite, « Mes recherches à Londres m'ont révélé le fait nouveau que les verbes sont représentés par, également par des monogrammes ou signes idéographiques. » Les verbes également. Et il donne à l'exemple du signe « cis » qui signifiait « frère », mais aussi le verbe « protéger ». Il a fallu attendre 1866 pour que les copies de la plupart de ces tablettes soient publiées par Henry Rawlinson et Edwin Norris. Donc on voit bien le rôle de pionnier que Oppert joua dans les années 1857-1859. Oppert a été récompensé du succès de sa mission au British Museum de plusieurs manières. Tout d'abord, comme l'a déjà indiqué Kevin Cathcart, il reçut la nationalité française le 7 mai 1856, puis il fut nommé en 1857 professeur de sanskrit à l'école des langues orientales vivantes de la bibliothèque impériale, et enfin, il devint chevalier de la Légion d'honneur en juillet 1858. Les trésors du musée britannique ne pouvaient pas rester dans leur placard, et la circulation d'albums de photos n'était pas un mode de publication possible à grande échelle. Rawlinson se lança donc dans une vaste entreprise consistant à publier des copies des textes cunéiformes les plus importants dans une série intitulée « Cuneiform Inscriptions of Western Asia ». Il ne fit en réalité que superviser ce travail qui a été effectué par 3 assistants. Le premier volume des Cuneiform Inscriptions of Western Asia parut en 1861 et Rawlinson avait été secondé par Norris. Hopper en publia dès 1862 un compte-rendu, bref mais très favorable, dans le journal asiatique qui commence en ces termes. Le musée britannique vient de publier la première partie d'une œuvre extrêmement importante qui inaugure une nouvelle ère dans l'étude des inscriptions cunéiformes. L'ouvrage se compose de 70 planches lithographiées, exécutées avec une grande élégance et, ce qui est plus digne de notre reconnaissance, avec une exactitude qui atteint les dernières limites du possible. Si Hopper mit l'accent sur la qualité technique de l'ouvrage, c'est que, contrairement à ce qui avait été initialement prévu, les planches ne furent accompagnées que d'indications minimales sur la nature de chaque texte sélectionné, sous la forme d'un catalogue de 3 pages. Il était prévu à l'origine que les planches soient complétées par l'édition des textes, mais finalement, Rawlinson y renonça, estimant que les interprétations devaient être publiées dans des revues. Hopper fit également une communication à l'Académie en avril 1862 sur, je cite, « deux documents provenant de Sennachérib, 703-680, et de son fils Assaradon, 680-668, roi de la dernière dynastie assyrienne ». Il donna la lecture de sa traduction du prisme de Sennachérib, dont la copie venait d'être publiée dans le même volume. Le texte contenait le récit des 8 premières campagnes du roi. C'était d'autant plus novateur qu'on retrouvait là nombre de rois mentionnés dans la Bible, comme Merodach-Baladan ou Ézéchias. Hopper ne semble pas avoir publié de recension du volume 2 des Inscriptions of Western Asia, paru en 1866, avec à nouveau Rawlinson et Norris comme auteurs. Mais l'intérêt d'Hopper pour les textes bilingues publiés dans ce recueil donne lieu à un article dans le journal asiatique de 1873. Sa traduction d'une section entière de la série Anaitishu fut complétée en 1877 dans le livre qu'il consacra avec Joachim Menon aux documents juridiques de la Syrie et de la Chaldée, dont Farah Thomas nous parlera cet après-midi. Hopper fut plus critique à l'égard du volume 3 qui parut en 1870. Cette fois, Rawlinson avait été secondé par un nouvel assistant, le célèbre George Smith. Hopper publia un article de commentaire sur certaines tablettes présentes dans ce recueil. La première section porte sur une lettre de Mar-Ishtar à un roi assyrien, Assaradon, à propos d'une éclipse de lune. Hopper indiquait « Cette inscription curieuse a été publiée par M. Rawlinson dans le 3e volume de ses inscriptions. Elle était connue de M. Hopper, qui en avait pris copie au musée britannique. » Donc, sans doute en 1855, ça n'est pas précisé. « Monsieur Hopper expose que Sir Henry Rawlinson n'a pas bien saisi le sens des inscriptions, car l'éminent savant parle d'observation de Jupiter. » Eh bien, la réédition de cette lettre par Simo Parpola a donné tort à Hopper. Il s'agit bien ici de Jupiter, mais Hopper avait eu raison de lire le nom de l'expéditeur Mar-Ishtar au lieu de Pal-Astar, comme l'avait fait Rawlinson. En janvier 1872, Hopper fit paraître dans le journal asiatique un compte-rendu très sévère des deux livres publiés par George Smith l'année précédente. Le premier était une liste de signes rangés en fonction de leur forme. Hopper lui reprochait, je cite, « un manque absolu de méthode et de critique dans le classement des valeurs afférentes à chaque signe » et il donna de nombreux exemples de confusion, erreur et oubli. Il trouvait également anormal que Smith n'ait pas clairement indiqué ce qu'il devait à ses devanciers et il lui reprocha habilement son ingratitude en ces termes. « Monsieur Smith croit-il sérieusement qu'un mot de reconnaissance adressé à la mémoire de Hinks aurait déparé son syllabaire ? » Pense-t-il au contraire que cet oubli volontaire de l'homme éminent, qui le premier reconnut le caractère syllabique de l'écriture assyrienne, lui soit très utile aux yeux des personnes se souvenant encore de l'illustre académicien d'Irlande ? Et le reproche est d'autant plus fort que, comme on l'a vu, les rapports entre Inks et Aupert n'avaient pas été exempts de tensions, puisque Inks avait critiqué la grammaire d'Aupert en 1866, mais comme nous l'a dit Kevin Cathcart, Inks était décédé juste après, et Aupert appliquait manifestement l'aphorisme « De mortuis nihil nisi bonum ». Le livre de George Smith sur Assurbanipal était essentiellement une traduction des annales de ce roi, et Aupert reprochait à son auteur d'être seulement un bon déchiffreur des cunéiformes, dépourvu de la formation philologique nécessaire. Ce qui était cruel, mais exact. On connaît le goût d'Aupert pour les formules assassines. Il souligna ici que Smith s'était, je cite, « engagé dans la campagne, sans artillerie et sans train ». Si Botta avait été envoyé fouiller Ninive, c'est bien en raison de l'importance de cette ville dans la Bible. Très vite, les découvertes en Assyrie, puis en Babylonie, permirent d'établir des ponts entre les données bibliques et ce qu'on découvrait peu à peu dans les textes cunéiformes. Une telle moisson conduisit Samuel Birch à fonder en 1870 la Society of Biblical Archaeology. Deux ans plus tard, en décembre 1872, ce fut devant les membres de cette société savante que George Smith exposa sa découverte, parmi les tablettes de Ninive, d'un récit du déluge, et on sait à quel point cette affaire fit du bruit. Selon Wallis Budge, Aupert aurait tenté d'empêcher Smith de publier sa découverte et aurait cherché à éditer lui-même le récit du déluge. Vu la gravité de l'accusation, il faut la peine de relire le récit de Budge. Rawlinson fit part de sa découverte à Aupert. Sa découverte, c'est celle de Smith. Aupert, qui se rendit rapidement à Londres pour voir la tablette. Convaincu que l'inscription avait été lue correctement, il retourna à Paris et obtint une subvention du gouvernement français pour lui permettre de venir à Londres et de publier l'inscription. Arrivé à Londres en temps voulu, il demanda la tablette à Birch, qui ne la lui remit pas. Il s'adressa alors à Rawlinson, déclarant que le gouvernement français l'avait chargé de la publier et qu'il lui avait fourni les fonds nécessaires à cet effet. Lorsque Rawlinson s'opposa naturellement à ce que la découverte de Smith lui soit confiée pour publication, Aupert fit valoir que toutes les tablettes de Kunyunjik conservées au British Museum appartenaient au gouvernement français, car la Porte avait cédé le site aux Français en 1842 et que seuls les Français devaient les publier. Et Budge poursuit, Aupert rentra en France dépité et ne pardonna jamais à Smith de ne pas lui avoir remis ses copies pour qu'il les publie. Révéler cet épisode était tout sauf innocent de la part de Budge, puisque le but de son ouvrage était explicitement d'attribuer tout le mérite de la fondation de l'assyriologie à Rawlinson, Inks et Aupert étant des quantités négligeables. Dans mon livre de 2022, Enquête de Ninive, j'ai résumé le récit de Budge sans le remettre en cause, et je pense aujourd'hui que j'ai eu tort. Ne s'agit-il pas en effet d'une invention pure et simple de Budge ? Alors, en posant cette question, je ne cherche nullement à blanchir la mémoire d'Aupert, mais à faire œuvre d'historien. Il se trouve en effet que Budge a été convaincu par Mogens Larsen de mensonge lorsqu'il a accusé Layard de ne pas avoir trouvé de tablette à Nimroud parce que Layard aurait cru avoir affaire à des tessons de céramique ornés et les aurait jetés. On peut également citer l'avis de Henry Sags qui a écrit « Aucune déclaration de Budge au sujet de Layard ne doit être acceptée sans un examen attentif ». Eh bien, c'est, je crois, ce qu'il faut faire aussi à propos de ce qu'il a écrit sur Aupert. En effet, il y a des détails qui laissent sceptiques, en particulier le fait que Aupert serait reparti à Paris, puis revenu avec un ordre de mission en bonne et due forme, de même que la mention des fonds spéciaux accordés pour l'opération. Plus encore, L'argument que la publication des tablettes de Ninive revenait de droit aux Français aurait dû apparaître bien auparavant sous la plume d'Oppert, or il n'en a jamais rien été. Si un tel incident avait réellement eu lieu, est-il concevable que la version du récit du déluge par George Smith ait été aussitôt traduite en français et publiée dans le journal officiel ? Quelle époque ! Et la communication que fit Oppert à la société asiatique dès le 13 décembre 1872 ne comporte aucune revendication. Les critiques y sont de nature purement scientifique. Quoi qu'il en soit, la dureté d'Oppert à l'égard de George Smith, dont nous avons vu qu'elle est antérieure à la découverte du récit du déluge, ne s'atténua pas. Dans son cours du 27 décembre 1872, Oppert réserva une place de choix au récit du déluge et déplora que le texte cunéiforme ne soit pas encore disponible. Il souligna, comme il l'avait fait à la société asiatique 2 semaines auparavant, que le mérite de la découverte de la bibliothèque d'Assurbanipal revenait à Austin Layard, apparemment sans un mot de revendication au titre de la préséance française sur le titre de Ninive, puisque Botta en a été de fait le premier fouilleur en décembre 1842. Dans la séance du 10 janvier 1873 de la Société asiatique, Oppert revint à l'assaut. Je cite « Monsieur Oppert reprend la suite de ses observations critiques sur le texte assyrien du poème du déluge et combat sur plusieurs points les opinions de Monsieur Smith sur ce texte épigraphique. Monsieur Oppert se propose de publier plus tard le texte de cette tablette avec un commentaire. » Oppert obtint sans doute ensuite la copie de Smith. Devenu professeur au Collège de France, il consacra son enseignement en 1875-76 au poème assyrien du déluge. Mais c'est seulement en 1879 qu'il en publia une traduction. Oppert indiqua par la suite que sa traduction de 1879 avait été, je cite, « à la base de toutes celles qui ont été faites de ce document en Angleterre, en Allemagne et en France ». Et de fait, dans la réédition mise à jour du livre de George Smith publié par Archibald Sayce en 1880, ce dernier indiqua explicitement avoir tenu compte des progrès effectués par Oppert. Celui-ci avait montré en particulier que le passage interprété par Smith comme relatant le péché originel, en parallèle avec le chapitre 3 de la Genèse, était un contresens pur et simple, et donc la mention « Fall of Man », la chute de l'homme, disparut du sous-titre lors de la réédition du travail de Smith de 1880. Oppert donna une nouvelle traduction du récit du déluge en 1885, qui tenait compte des nouveaux fragments, mais il ne donna jamais de traduction de l'ensemble de l'épopée de Gilgamesh, ce qui fut fait par l'abbé Sauveplane, comme je l'ai indiqué dans un article paru dans les mélanges Stefan Maul. On voit donc à quel point les tablettes de Ninive ont joué un rôle essentiel dans le déchiffrement du cunéiforme qu'Oppert qualifiait de anarien. Elles lui ont permis de mieux comprendre la langue assyrienne, mais aussi, dès 1855, d'esquisser la grammaire du sumérien. Je terminerai en citant Léo Oppenheim, qui écrivait dans son hommage à Benno Landsberger « Bien qu'il ait toujours été aux frontières de la connaissance assyriologique, il suffit de se référer à ses travaux sur le matériel paléo-assyrien et paléo-babylonien, il était pleinement conscient de l'importance existentielle du noyau de notre domaine, les textes de Kuyunjik, sur lequel il a toujours insisté pour contrecarrer les tendances centrifuges qui menaçaient le domaine. » Dans l'avant-propos de Amourou 1, Jean-Marie Durand et moi-même avions commenté cette citation, je nous cite, une telle perspective n'est plus de mise aujourd'hui. Les textes de Kuyunjik ont été considérés comme le centre de la syriologie, avant tout parce qu'il s'agit du premier très gros corpus qui ait été découvert. Si les archives de Marie avaient été exhumées au milieu du XIXe siècle, il est probable qu'elles n'auraient pas été considérées comme marginales. Je ne renie pas ce que nous avons écrit, mais je ne peux m'empêcher de me demander ce qui aurait alors pu être compris du corpus de Marie. Et donc, il faut, pour terminer, souligner la chance extraordinaire qui fait que, presque dès le début des recherches, on est tombé sur cette bibliothèque de Ninive qui offrait tous les instruments, lexicaux en particulier, permettant de percer le secret des écrits cunéiformes. Jules Appert en a fait bon usage, et c'est cette facette de son travail que je voulais mettre en lumière ce matin. Je vous remercie de votre attention.
Collège de France, le savoir en illimité. Retrouvez tous nos contenus audio et vidéo sur notre site collège-de-france.fr, les plateformes de podcast et nos chaînes YouTube.